La première fois que j'ai vu Contagion, le film de Steven Soderbergh, c'était à sa sortie, en 2011.
À 17h aujourd'hui, on en était à 47 cas et 8 décès.
C'est le week-end. On doit être en deçà de la vérité. Les gens restent chez eux quelques jours en espérant se remettre.
Donc à ce stade, je pense qu'on doit estimer que c'est respiratoire.
Bon, je peux pas dire que sur le moment, il m'est follement marqué. Cette histoire d'épidémie venue d'Asie qui gagnerait le monde entier en quelques semaines me semblait assez irréelle. Enfin, en tout cas, invalidée par les épidémies de SRAS et consorts avec lesquelles on nous avait fait peur et qui s'étaient éteintes très vite.
Je crois qu'il faut envisager la fermeture des écoles.
Et qui va rester à la maison avec les enfants? Les employés des magasins? Les fonctionnaires? Le personnel des hôpitaux?
La deuxième fois que je l'ai vu, c'était, comme beaucoup de gens d'ailleurs, au début du Covid. Alors là, tout à coup, ça m'a semblé beaucoup plus réel. Et surtout, très familier. Par exemple, quand un médecin qui dirige une grande institution publique explique dans le film ce à quoi on donne le nom aujourd'hui de distanciation sociale.
L'étude d'un certain nombre de médicaments est en cours, et la ribavirine en fait partie. Mais je maintiens qu'à ce jour, notre meilleur moyen de défense reste la distance sociale. On ne se serre pas la main, on ne sort pas si on est malade, on se lave les mains fréquemment.
Mais l'autre chose qui m'est apparue en revoyant Contagion, c'est la manière dont Soderbergh relie la propagation du virus, en filmant notamment les objets par lesquels il circule, etc., à d'autres propagations. Et notamment la propagation de l'information.
Bon, je vais inviter Alan Crumweed à rejoindre ce débat. Aujourd'hui, sur Twitter, vous écrivez que la vérité sur ce virus est dissimulée au monde.
Ainsi, quand ce même médecin est invité à la télé pour discuter avec un blogueur, à la fois lanceur d'alerte et un peu complotiste, joué par un Jude Law bizarrement enlaidi, comme s'il fallait que le blogueur complotiste soit laid.
Le docteur Shiver est quelque peu de mauvaise foi lorsqu'il parle de l'ensemble de ses concitoyens.
Nous nous évertuons à découvrir d'où ce virus est apparu et comment le soigner. Et pour verser dans la peur, il suffit d'un contact avec une rumeur. À la télévision, sur le net. Je crois que ce monsieur Crumweed répand est bien plus dangereux que cette maladie.
Voyez-vous ça?
Parfaitement.
Et là, je me suis dit qu'il y avait un truc très habile, et sans doute très vrai aussi, à rapprocher des types de propagation a priori différents. Que c'était quelque chose qu'on avait vécu, ce rapprochement, et qui serait intéressant de fouiller. Voilà, j'ai pensé ça, mais ça n'est pas allé plus loin. Et puis, voici qu'au début du mois de mars est sorti un livre titré « Propagation », au pluriel, et sous-titré « Un nouveau paradigme pour les sciences sociales ». Bon, alors déjà, le pluriel était une promesse parce qu'il s'agissait précisément de tenir ensemble différents types de propagation, de leur trouver des principes communs. Mais je n'y aurais peut-être pas prêté plus d'attention à ce livre si j'avais pas connu le nom de son auteur, Dominique Boulier. Dominique Boulier, c'est un sociologue et c'est un grand nom du numérique français. Il vient juste de prendre sa retraite, hein, il est toujours professeur émérite à Sciences Po d'ailleurs, mais il a été au fil de sa carrière dans à peu près tous les endroits intéressants. Au milieu des années 80, il était à Berkeley, aux États-Unis, dans le laboratoire de Manuel Castells, qui est un des grands penseurs de l'Internet. Ensuite, Dominique a rencontré Bruno Latour, avec lequel il a beaucoup travaillé et fondé plus tard le Media Lab de Sciences Po. Mais entre-temps, il a occupé plusieurs fonctions au sein de l'Université technologique de Compiègne, où travaillait aussi le philosophe Bernard Stiegler. Et puis, il a fondé des entreprises, il a dirigé des gros projets de recherche, il a publié quelques livres, etc. Bon, bref, c'est une figure incontournable de la réflexion sur le numérique. Et donc, depuis des années, il s'intéresse aux propagations. Enfin, plus exactement, il considère que les propagations sont une donnée fondamentale de notre époque et que les sciences sociales devraient les étudier de plus près pour essayer de comprendre comment elles fonctionnent. Alors, la question qu'il se pose, Dominique, c'est...
Xavier Delaporte.
Sur quelle base on pourrait établir une théorie des propagations, de toutes les propagations, celle d'un virus comme celle d'une idée, d'un tweet ou même d'une innovation? Quand j'ai su que Dominique publiait ce livre, je me suis rappelé ce que je m'étais dit en voyant Contagion, et donc j'ai envoyé un mail à Dominique Boulier, et rendez-vous a été pris.
Le code a changé.
Une fois Dominique installé, je lui ai fait part de mon étonnement à la lecture de son livre. Je n'avais pas mesuré à quel point la question de la propagation traversait des champs et des disciplines. Sans même parler de la physique, des sciences physiques et de la propagation des ondes, il y a la propagation des virus en épidémiologie, évidemment, mais certains se sont aussi demandé comment se propageait une idée, des sociologues ont travaillé sur les rumeurs, tout comme les historiens se sont demandé comment se diffusaient les pratiques et les innovations, et puis les gens de la pub se demandent comment propager l'envie d'acquérir un objet, tout comme les syndicalistes cherchent à ce qu'un mouvement social prenne, donc se diffuse, sans parler des politiques, évidemment. Bref, des propagations, il y en a partout, tout le temps, depuis toujours, et plein de gens y ont réfléchi. Bon, c'était pas vraiment une question que j'ai faite à Dominique, mais il y a répondu quand même.
Dans chaque discipline, c'est assez marginal, notamment dans les sciences sociales, je veux dire, à part les gens qui travaillent sur les rumeurs, vous voyez. Bon, bah, les autres, massivement, on parle, quand on est en sciences sociales, des structures sociales qui se reproduisent, etc. Et bon, bah, c'est très bien. Mais du coup, on ne s'intéresse pas spécialement au fait qu'il y a des choses qui se transmettent et comment on les analyse et comment on les suit à la trace. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas d'outils pour tracer ça. On avait des recensements, on pouvait faire des études de structure, on avait des opinions qu'on faisait émerger en interviewant les gens, mais on n'avait rien pour suivre à la trace. Or, on a désormais les plateformes techniques qui nous permettent de récupérer de la donnée et de pouvoir documenter et argumenter de façon un peu plus sérieuse.
C'est donc quand il a compris que le numérique donnait cette possibilité d'étude que Dominique s'est mis à travailler à cette question de la propagation. Donc c'est bien avant le Covid. Alors bon, qu'est-ce que le numérique apporte à la personne qui s'intéresse aux propagations ? Bon, d'abord des traces. Pour s'en tenir aux sciences sociales, hein, dès la fin du 19e siècle, par exemple, quelqu'un comme Gabriel Tarde, qui est un des fondateurs de la sociologie, s'est intéressé à la manière dont les idées se diffusaient dans les foules, dans les masses, dans les populations. Bon, il a théorisé, mais il était très difficile pour lui d'avoir des données tangibles, à la fois pour bâtir ses modèles et pour les tester. Tandis que, le numérique arrivant, eh ben, on a des conversations, on a des traces des conversations, on a des temps de lecture, on a des partages, autant de données qui permettent de faire des calculs. Bon, ça c'est le premier apport du numérique. Le deuxième, c'est la masse de ces données. Elles sont non seulement d'un nombre gigantesque, mais elles sont aussi très fines et très variées. Et ça, c'est nouveau. Donc voilà, pour Dominique, on vit un tournant. Aujourd'hui, on est selon lui en mesure de vraiment étudier les propagations, de déduire des modèles, de les tester. Et lui, c'est d'abord comme ça qu'il a réfléchi à cette question, comme un scientifique qui essaierait de comprendre comment ça marche la propagation et toutes les formes de propagation dont les humains sont les acteurs. Alors, moi je me demande s'il n'y a pas un truc un peu dingue dans son entreprise. Je veux bien que grâce au numérique, on puisse observer finement et faire des calculs. Mais est-ce qu'il n'y a pas une énigme dans le fait qu'une idée se diffuse ou pas ? Dans le fait qu'un mouvement social prenne ou pas, qu'une innovation perce ou pas ? Et je demande donc à Dominique s'il n'est pas en quête d'un mystère qui est finalement insondable.
Certes, il y a un mystère, mais le mystère, c'est surtout la variation.
C'est-à-dire ?
Et la variation, c'est-à-dire qu'il faut faire varier les messages parce que c'est une sélection qui va se faire au hasard. Si on fait de l'épidémiologie, on sait que les variants, eh bien, c'est des mutations qui ne fonctionnent pas correctement. Si il y a des choses comme cela. Parce qu'on essaye beaucoup de variants, au bout d'un moment, il y en a un qui va passer, parce qu'il y aura la conjonction aussi de ces propriétés spécifiques, mais qui vont être en lien avec le moment, le milieu, les transmetteurs, les véhicules, etc. Si vous avez un autre événement qui tombe dans l'actualité au moment où vous sortez quelque chose, eh bien, c'est foutu, vous n'arrivez pas à capter l'attention.
Ok, donc il y a mystère parce qu'il y a des accidents, des effets de circonstances. Bon, ça, en fait, on le sait tous. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais moi, il y a un exemple qui me vient tout le temps à l'esprit, c'est la mort de Mère Teresa. Mère Teresa, la petite mère des pauvres en Inde, une figure catholique, certes, mais œcuménique, est morte le 5 septembre 1997, et on ne s'en souvient pas. On s'en souvient pas parce que pas grand monde en a parlé. Et pourquoi pas grand monde en a parlé ? Parce que le 31 août, à peine une semaine avant, eh ben, il s'était passé ça.
Le conte de fées a tourné au drame cette nuit à Paris. À 36 ans, Lady Di a trouvé la mort dans un accident de voiture en compagnie de son nouvel ami, le milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed. Leur voiture, poursuivie par des paparazzi à moto, roulait à très très grande vitesse lorsque le conducteur en a perdu le contrôle.
Voilà, ouverture du journal d'Antenne 2 par Bruno Mazur le 31 août 1997. C'est sûr que la pauvre Mère Teresa, à côté de ça, elle faisait pas le poids. Alors, c'est un exemple trivial, j'en conviens, mais juste pour dire que oui, il y a des effets de milieu à la propagation, qu'un milieu saturé soit moins propice à la propagation, ok, ça on le sait. Ce qui est plus inattendu, c'est ce que dit Dominique au début, là. Que le vrai mystère, pour lui, c'est la variation. C'est intéressant qu'il parle de mutation, de variant, en citant l'épidémiologie. Parce que la mutation soit au cœur de la propagation d'un virus, ok. Mais bon, une idée ou un objet, c'est pas un virus. Donc, je lui demande si on peut vraiment s'inspirer des épidémiologistes pour étudier des propagations qui sont somme toute très différentes.
Je ne vais pas décalquer la conception et dire qu'un message, c'est exactement un virus ou quoi que ce soit. L'important, par contre, c'est qu'ils ont développé des méthodes de calcul qu'on a connues maintenant avec le Covid-19, on parle d'un R0, etc. Bon, eh bien, ça, c'est des choses qu'on peut importer à condition de les vérifier et les importer dans l'étude qui est, à mon avis, le cas le plus intéressant à tester pour les sciences sociales, qui serait Twitter ou les mèmes.
Ouais, en revoyant certains passages de Contagion, je me dis que ces moments de pédagogie n'auraient plus lieu d'être aujourd'hui après le Covid. Hein. Mais bon, en 2011, on pouvait en savoir gré à Soderbergh de nous expliquer, par exemple, ça.
Pour chaque personne qui tombe malade, combien d'autres personnes risquent-elles de contaminer ? Pour la grippe saisonnière, c'est en général environ une. Pour la variole, par contre, c'est plus de trois. On appelle ce nombre le R0. Le R, c'est pour taux de reproduction du virus.
Donc voilà, selon Dominique, des manières de calculer développées par les épidémiologistes, comme le R0, expliqué ici par le médecin là, que joue Kate Winslet, pourraient nous servir à comprendre d'autres propagations. D'accord. Mais qu'est-ce que Twitter vient faire là-dedans ? D'ailleurs, dans son livre, Dominique a même une belle trouvaille, il dit que Twitter pourrait être la drosophile de notre époque. Bon, la drosophile, c'est une espèce de mouche, hein, la plus commune dans les laboratoires de biologie et de génétique, parce qu'elle est présente presque partout dans le monde, qu'elle s'élève facilement et qu'elle se reproduit vite.
Oh là, oh là, oh là, là. D'où est-ce que tu sors, toi ?
Il a muté. Nous avons un nouveau R0, Elise. Ce n'est plus deux, maintenant.
Twitter peut servir de laboratoire parce qu'on peut y observer comment les messages mutent. On peut suivre des traces, faire des calculs. J'avoue que j'aime beaucoup cette idée, Twitter comme laboratoire, le tweet comme drosophile. Mais question toute bête, pourquoi Twitter plus que n'importe quel autre réseau social ?
Twitter a été vraiment conçu pour cette viralité. La brièveté des messages, le hashtag et le bouton retweet. On a une vraie infrastructure qui génère de la viralité et un rythme absolument invraisemblable, qui pose d'ailleurs des problèmes. Mais en attendant, on est effectivement là dans une situation où on a une quantité de cas qu'on peut tester, qu'on peut comparer. Et les data science aussi se sont mises à tester sur des millions de tweets, des propagations, des formes et des courbes particulières.
Ok, je comprends. Mais qu'est-ce que ça nous apprend ? Est-ce qu'on peut, à partir de l'étude de Twitter, déduire des modèles qui soient pertinents pour d'autres propagations que des tweets ?
On apprend que quand on gagne un public dans une première émission d'un tweet, qui lui-même va être extrêmement répliqué, eh bien on a peu de récurrence. C'est-à-dire qu'après, ça ne se réinvente pas. Or, c'est très important dans la propagation d'être capable de se réinventer. Et alors que quand vous avez un taux de succès moyen, eh bien vous avez la possibilité que d'autres le reprennent dans leur propre milieu et que la propagation se refasse de façon différente. Parce que ça, c'est un élément très important dans la propagation, c'est la réplication avec mutation. C'est comme cela que ça s'approprie. Et là, on voit ça, on peut observer tout cela.
Ah, c'est très intéressant, ça. Plus que la puissance de départ, c'est donc la capacité à changer, à être appropriée, à s'adapter qui garantit la propagation. On pourrait rapprocher ça de phénomènes qu'on a tous expérimentés et observés, hein, comme le bouche à oreille par exemple. Moi, c'est un truc qui me fascine avec les sorties de cinéma. Comment un film qui sort avec un énorme battage publicitaire et médiatique s'épuise quand suffisamment de gens l'ont vu et ont trouvé ça nul. Bon, le dernier cas en date, c'est...
Je vous présente...
Jules César.
Coucou Jules.
Je pense qu'on est ce qu'on mange.
Et ben moi je pense pas, je mange.
Voilà, c'est un petit peu ça le problème, voilà.
Faut pas pousser les gens comme ça, ça fait mal.
Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous ?
C'est même pas toi qui y seras allé, hein. C'est Astérix et Obélix, comme d'habitude. Oh. Mais l'idée fixe, ils voyagent plus que toi.
Toi, t'en fais une fixe.
Voilà, le dernier Astérix, énorme lancement, démarrage historique et épuisement. Alors que peut se produire le phénomène inverse. Le film qui fait son succès petit à petit, parce qu'il touche, parce qu'il y a un phénomène d'appropriation par le public, qui va relayer ce qu'il a touché de personne en personne, etc. Bon, ça c'est très bien connu dans l'industrie culturelle. Mais je me demande si ça fonctionne aussi pour les idées. Est-ce qu'une idée qui est close sur elle-même a moins de chances de se propager longtemps et loin, même si sur le moment elle est hyper séduisante, hyper forte ? Et je me demande si la variation d'une idée ne provient pas elle aussi de sa capacité à être appropriée, à ce que les gens la fassent leur, quitte à la déformer. Hein. Elle va s'adapter à des milieux différents, variant un peu et donc avoir une diffusion large. Voilà, je trouverais ça super intéressant d'observer sous cet angle la diffusion d'un concept comme par exemple celui de déconstruction. Bon, c'est un concept ultra compliqué, produit par Jacques Derrida, et qu'on retrouve aujourd'hui très présent, et en même temps peut-être mal compris, dans toutes les discussions autour du wokisme, toutes les controverses autour du wokisme, etc. Bref, donc Twitter, c'est pour Dominique un milieu parfait pour vérifier ce genre de phénomène, même pour les objectiver en traçant des propagations. Mais Dominique, il avait parlé d'un second élément intéressant à étudier pour comprendre la propagation, c'est le mème. Par exemple, Pepe the Frog, le personnage de grenouille là, qui circule dans les réseaux depuis presque 15 ans et que Dominique a fait décrire à ses étudiants. Je lui demande de m'expliquer pourquoi le mème est un modèle très pertinent pour lui et ce qu'il tire par exemple de Pepe the Frog.
Les mèmes, c'est vous avez une même image avec deux textes en haut et en bas, les textes blancs, etc. Vous aviez une audience tout d'un coup qui va démarrer sur une des versions. Alors c'est un peu problématique parce que si tout se met à varier, ben vous dites il n'y a plus rien. On est un peu dans le cadre de l'homéopathie, c'est-à-dire qu'au bout du compte il ne reste plus rien. Quoi. Vous avez un problème, vous avez du mal à argumenter. Quoi. Donc il faut qu'il reste des éléments qui sont encore des références, qui sont dans la mémoire collective, ou les éléments clés qui vont susciter le rire, et à ce moment-là, on le voit, ça se reformate. Mmh. Et puis, Pepe the Frog, c'est un exemple très intéressant, parce que justement, il est lancé par un cartooniste, il est repris dans la culture populaire américaine, et à un moment, c'est l'alt-right qui s'empare de ça pour les campagnes de Trump. Mais dans le même temps, en Chine, il est réutilisé comme Pepe the Frog, qui pleure un peu. Alors donc, c'est un enjeu politique de lamentation un peu vis-à-vis du régime, etc. Et c'est repris encore quelques années plus tard par les manifestants de Hong Kong, qui le réutilisent pour signifier effectivement cette résistance face au pouvoir du PC chinois. C'est-à-dire là, vous avez vraiment des variations qui assurent une propagation du mème assez impressionnante, parce que, vous voyez, ça s'étend, quoi.
Alors, si je comprends bien le raisonnement de Dominique, un mème, c'est pas seulement un phénomène qu'il est intéressant d'étudier du point de vue de la culture populaire, c'est aussi une sorte de drosophile. En étudiant la propagation d'un mème, en le comparant à d'autres cas de mème, eh ben, on pourrait dégager des patterns, c'est-à-dire des modèles ou des motifs qui montrent quelles sont les conditions de variabilité d'un contenu. En fonction de quoi c'est un variant plus qu'un autre qui va se propager, en combien de temps, sur quelle étendue, etc. Voilà, tout ça, encore une fois, on peut l'objectiver, le calculer et l'appliquer donc à d'autres types de propagation. Mais en écoutant Dominique, me vient en tête une autre figure de la propagation numérique, les influenceurs et influenceuses. Et je lui demande pourquoi, dans son travail, il ne leur accorde pas une place plus importante que ça. Pourquoi ils sont, selon lui, moins intéressants que le mème ou Twitter ?
Le risque souvent de se focaliser sur les influenceurs, c'est de ne plus parler de ce sur quoi ils influencent, quoi, en gros. Ces leaders-là, ce n'est pas des leaders en général, c'est des leaders sur certains domaines. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez en réalité un intérêt pour le contenu. L'influenceur, on va lui faire passer tout. Non, il a un créneau en réalité qui est assez limité sur un certain nombre de domaines, donc il faut l'analyser cela. Et non seulement ça, mais en plus, il a un style de communication sur lequel il doit rester constant, parce que sinon il perd sa communauté. Tous les gens qui sont influenceurs sur YouTube ou sur Instagram apprennent ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout d'un coup changer de style complètement, quoi, et devenir très marrant alors qu'on a été très technique ou inversement. Ce n'est pas possible, quoi. Donc vous avez là des choix, des formats, des propriétés sémiotiques qu'il faut analyser. Et à ce moment-là, l'influenceur, ça devient une ressource intéressante. Mais souvent, on va un peu trop vite à la notoriété, avec l'idée stupide, par exemple, du nombre de followers qui serait essentiel. Alors qu'on sait que non, c'est pas ça. C'est effectivement une capacité à faire passer certains types de contenus avec certains types de communautés.
Bon, dans les faits, le marketing a déjà entériné ce constat, en se reposant aussi sur ce qu'on appelle, enfin ce qu'il appelle le marketing, les micro-influenceurs, voire les nano-influenceurs. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas beaucoup de followers, qui touchent donc des communautés très restreintes, parfois c'est simplement leurs proches, mais qui du coup jouissent d'une très forte confiance. Et parfois c'est plus efficace que les gros comptes, ça les marques et les boîtes qui font du marketing l'ont compris. Bon, néanmoins, ce qui est intéressant dans ce que dit Dominique, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur la place qu'occupent ces gens dans un réseau. Il ne faut pas simplement regarder les effets de structure. Il faut aussi regarder les contenus, leur forme. Parce que c'est ça aussi qui garantit la propagation. Par exemple, ce que les boîtes de marketing elles aiment chez les micro-influenceurs, c'est aussi parce qu'ils personnalisent beaucoup plus leur message. Donc, voilà. Arrivé à ce moment de la discussion, j'ai une idée beaucoup plus claire de l'entreprise de Dominique Boulier. Il ne cherche pas la martingale de la propagation qui expliquerait toutes les propagations et qui permettrait à n'importe quoi de se propager. Il pose juste quelques bases qui, selon lui, sont essentielles. Comme, par exemple, être très attentif à la capacité du message, ou de l'objet, à évoluer selon des contextes. Et autre point essentiel, il dit qu'avec le numérique, et un outil comme Twitter en particulier, on dispose du parfait laboratoire pour tester des hypothèses et dégager des modèles. C'est ça, pour lui, que le numérique change fondamentalement à l'étude des propagations. Mais je pense qu'il faudrait retourner le problème. Parce qu'il y a une question qui me perturbe depuis le début de notre discussion. Que le numérique soit un milieu favorable pour étudier les propagations, ok. Mais est-ce qu'il n'a pas aussi changé la propagation en elle-même ? Enfin, je veux dire par là, est-ce que depuis que nous avons Internet et les réseaux sociaux, la manière dont se propagent les idées, dont naissent et se diffusent des mouvements sociaux, des émotions, etc., est-ce que tout ça n'a pas profondément changé ? Et le premier aspect, le plus évident pour moi, c'est la question du rythme. Mais est-ce que tout ce qui peut se diffuser par Internet ne se diffuse pas beaucoup plus vite qu'avant ? Enfin, c'est juste un exemple parmi mille autres, hein. Mais qu'on se souvienne, la nouvelle de la prise de la Bastille...
Qu'y a-t-il ? Les Parisiens ont pris la Bastille.
...arrive à Brest le 20 juillet 1789, 6 jours après son déroulement.
C'est une révolte ?
Non, sire. C'est une révolution.
Bon, aujourd'hui, quelqu'un qui a le nez dans les réseaux a su que la Russie avait lancé son offensive contre l'Ukraine avant même que les médias l'annoncent. Encore une fois, c'est un exemple trivial, mais ça dit peut-être que quelque chose a changé. Alors, je pose la question du rythme à Dominique.
Je pense effectivement que le changement de rythme est absolument essentiel. Mais n'oublions pas que ça a commencé, de mon point de vue, avec la finance. Quand on fait du high frequency trading, où on a des cotations dont les variations peuvent être de l'ordre de 30 millisecondes et que les ordres sont placés en masse à ce rythme-là, vous avez quelque chose qui fait qu'il n'y a plus que les algorithmes qui sont capables de dialoguer entre eux et de faire des offres et des achats, si vous voulez. Donc, bon, ça, à mon avis, c'est là où il y avait quasiment le modèle expérimental de tout ça, qui était aussi outillé par le numérique. Donc les machines, la proximité, comment on met les serveurs le plus près possible pour qu'il y ait un temps de latence le moins important et donc qu'on soit le premier à pouvoir enchérir ou anticiper sur les attentes des autres. Tous ces éléments-là, vous les retrouvez dans les réseaux sociaux. Mais c'est donc le numérique en réseau, déjà, point très important. Et le numérique en réseau qui, en plus, est équipé sur un modèle de captation de l'attention à haute fréquence, justement. Quand vous êtes sur Wikipédia, dans l'architecture de Wikipédia, il n'y a pas un mécanisme de viralité et d'accélération délibérée. Au contraire, on a un historique, on a la possibilité de contrôler les discussions, etc. Or, quand vous êtes sur les plateformes de réseaux sociaux, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'au contraire, il faut encourager la réactivité. Et c'est là où on voit que ce n'est pas le numérique en général, c'est le numérique en réseau. Et c'est pas le numérique en réseau en général, c'est le numérique en réseau sur les plateformes. Et sur ces plateformes qui sont elles-mêmes complètement financiarisées et dépendantes de la publicité.
C'est très intéressant ce qu'il dit là. D'abord, son idée que l'accélération a commencé dans le secteur de la finance avec le high frequency trading, le trading à haute fréquence. Ça, on l'avait déjà évoqué dans un vieil épisode du Code à changer avec Alexandre Lemonnier qui nous avait raconté une histoire complètement hallucinante. L'histoire d'un pylône de l'armée belge qui servait plus à rien et qui a été vendu 5 millions d'euros parce qu'il permettait à des acteurs de marché américains de gagner quelques millisecondes entre les bourses de Londres et de Francfort. Et à cette occasion, Alexandre avait raconté ce qu'est aujourd'hui un marché boursier matériellement.
Donc le marché qui autrefois était un lieu physique avec des humains qui se regardaient, ouais, comme on le fait là, et qui échangeaient avec des gestes de la main, ces humains ont été remplacés par des algorithmes. Et le marché lui-même est devenu ce qu'on appelle une matching engine, un moteur d'appariement. C'est ce qui apparie un ordre acheteur et un ordre vendeur pour le même produit au même prix, à un instant T. Donc le marché, en fait, c'est un serveur informatique qui se trouve dans un data center. Et autour de ce serveur, qui est concrètement le marché, vous avez les serveurs avec les différents algorithmes des différentes sociétés de trading qui ont tous été placés de manière équidistante par rapport au moteur d'appariement pour pas qu'une société puisse aller plus vite. Là aussi, on est plutôt de l'ordre des nanosecondes à l'intérieur des data centers pour régler ça. Ouais. Avec plein d'histoires assez rigolotes. À un moment, ils se sont aperçus que les serveurs des algorithmes des boîtes de trading qui étaient plus proches des circuits de refroidissement allaient plus vite que d'autres.
Non. Donc tous, ils ont essayé de se rapprocher.
Donc ils ont, alors comme physiquement, ils ne peuvent pas mettre tous les serveurs à la même distance des marchés, ils rajoutent du câble pour ralentir certains qui sont un peu plus près. Oui. Alors c'est toute une infrastructure. Moi, j'ai pas
c'est
eu...
Pour mettre à égalité les gens, on rajoute de la longueur de câble.
C'est ça.
Voilà, ça c'est vraiment de la très haute fréquence. Autre chose intéressante dans ce que dit Dominique, ce modèle n'est pas celui de tout l'Internet. Il est celui des lieux dont le système économique repose sur la publicité. Dominique a glissé que le carburant de tout ça, c'était nos réactions. Mais j'ai besoin qu'il me précise ce qu'il entend par là.
Qu'est-ce qu'on obtient quand on fait réagir ? On obtient plus de traces. Quand on obtient plus de traces, on a de fait une valorisation possible de ces traces parce qu'on a des taux d'engagement qui peuvent être vendus aux marques.
Ok, je comprends mieux le lien entre haute fréquence et publicité, c'est la trace. Pour produire des traces valorisables, il faut des réactions, il faut des clics, des partages, etc. Il y a donc un lien consubstantiel entre l'économie numérique et la propagation. Si la propagation s'est accélérée, c'est parce qu'elle rapporte de l'argent. Et donc, ces réseaux sociaux sont des mondes sociaux qui sont structurellement fabriqués pour accélérer la propagation. Et pour Dominique, ça a des conséquences massives.
C'est quelque chose qui change la nature même de notre écosystème de pensée collective, de discussion, de ce que j'appelle une architecture de connaissance. Ben, elle a changé parce que désormais, elle est à haute fréquence. Et cette haute fréquence-là, ce n'est pas du tout ce qu'on connaissait avant avec les médias qui eux-mêmes avaient déjà été accélérés, hein, pour des raisons y compris publicitaires d'ailleurs, quand on faisait des chaînes d'information continue ou bien des hachages de publicité, etc. C'est quelque chose qui empêche la délibération, de fait. C'est-à-dire que ça hache l'attention, hein. C'est vraiment quelque chose qui fait qu'un sujet chasse l'autre à très grande vitesse et qui vous oblige en plus à ne plus être dans un processus de décision. Vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez et vous générez des traces et vous encouragez cette viralité. C'est ça où c'est terrible. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes les propagateurs de ce qui, en fait, nous aliène, aurait-on dit, dans un autre modèle, quoi.
Pas comme les virus, quoi.
Exactement. Exactement. Nous sommes des véhicules. Et toute une partie de notre vie, nous ne sommes que des véhicules. Nous sommes des véhicules pour les virus, nous sommes des véhicules pour les messages, les fake news, etc. Nous sommes que des véhicules. L'architecture est tellement bien faite, c'est ce qu'on appelle la captologie, que ben, vous réagissez, ben oui, ça a été conçu pour ça. Et de fait, être capable de s'en sortir, ça suppose là aussi un équipement, éventuellement une éducation, mais des outils qui vous permettent de mettre les choses à distance, comme vous mettez un masque ou des choses comme ça quand vous voulez éviter que le virus vous traverse.
Lui, il y voit des conséquences très négatives pour le débat public. Et d'ailleurs, il a consacré son livre précédent à l'idée de se défaire des réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, ceux des grandes plateformes marchandes. D'ailleurs, ça le met dans une position un peu étrange. En tant que scientifique, il nous décrit les réseaux sociaux comme un laboratoire extraordinaire, notamment à cause de la vitesse qui permet de tester très vite des hypothèses. Mais d'un point de vue politique et citoyen, et Dominique, lui, il a eu et il a encore des engagements politiques, il trouve ça dangereux. Bon, c'est un assez beau paradoxe. Alors voilà, ça c'est pour l'accélération. Mais on pourrait défendre une autre idée, il me semble. On pourrait dire, eh ben, en augmentant la vitesse de propagation, Internet a comme réduit l'espace. De la même manière que le Covid, du fait des communications des biens et des personnes, a fait qu'une grande partie du monde s'est retrouvée confinée presque en même temps, au point de s'apercevoir que finalement on dépendait les uns des autres, eh ben, le fait que tout se propage très vite par le numérique, ça pourrait faire en sorte de renforcer l'impression qu'on appartient à un même monde, qu'il y a une forme de solidarité.
On est en ce moment en transition, c'est-à-dire que les opinions publiques, c'est quand même des phénomènes nationaux, y compris en termes de calcul, les sondages se font nationalement. Ouais. Et c'est relié à des médias nationaux, ça a été créé après l'invention de la radio. Et donc tout cela, c'est quelque chose qui crée un environnement où vous êtes connecté aux mêmes références. Bon. Est-ce qu'on a complètement basculé de ce point de vue-là ? Je suis pas sûr.
Du point de vue strictement empirique, regardez par exemple comment MeToo a irradié ultra rapidement. Voilà, ça c'est un exemple de connexion des espaces publics entre les États-Unis, la France, et puis pas simplement les États-Unis et la France, enfin, le monde entier presque.
Alors, entièrement d'accord, je pense qu'il y a quelques cas comme cela, effectivement, où on peut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, même si vous vous souvenez qu'on a essayé justement dans ces logiques de variation de faire une version française avec Balance ton porc. Et MeToo était suffisamment ambigu ou limité pour que ça se propage partout, et surtout que ce soit repris dans des communautés. C'est pas tellement que ce sont des États qui ont repris le problème, c'est que ce sont des collectifs dans certaines communautés. Ça a été le milieu du cinéma, après ça a été d'autres milieux des médias, d'autres milieux petit à petit, et ça gagne de milieu en milieu, vous voyez ? Il y a quand même quelque chose là qui montre la puissance de ces type de contagion, puisqu'on emploie aussi le terme de contagion, et qui mérite d'être attentif à cela, parce que ça a des effets que certains dénoncent, c'est-à-dire de dire « oui, bah, c'est-à-dire vous êtes en train d'importer tous les modèles américains ». Bon, en gros, voilà. Donc on se dit « il faut se protéger de ce type de propagation qui n'a plus de filtre, parce que c'est quand même pas nos valeurs, nos traditions, etc. » Mais c'est pas complètement faux, du point de vue général, c'est-à-dire que si vous êtes ouvert à toutes les contagions, vous avez un vrai problème de récupération, soit du contrôle, soit des formes du débat politique qui existaient auparavant, et vous vous standardisez et vous vous collez, disons, au modèle d'une forme de démocratie qui est celle de la démocratie américaine, par exemple.
Bon, Dominique n'est pas tellement d'accord avec moi. Pour lui, malgré la propagation, il n'y a pas émergence d'une opinion publique mondiale. Et quand, très rarement, c'est le cas, par exemple avec MeToo, eh ben, il y a plein d'autres risques de standardisation, par exemple. Ok, mais moi, j'en ai pas fini avec mon argument sur le fait qu'il peut y avoir des vertus à la propagation. Prenons l'exemple de l'écologie. Est-ce que dans ce cas, parce que le numérique propage vite et intensément des informations et des idées, ne naît pas en nous la conscience que le problème est global et encore une fois que nous sommes reliés les uns aux autres?
C'est en plein brasier que ce camion de pompiers australien tente de se frayer un chemin.
Mais que se passe-t-il aux États-Unis? Les températures sont descendues jusqu'à moins 45 degrés.
Une pluie si dense qu'elle obscurcit la vue, poussée par d'incessantes rafales de vent.
Très violents orages, le ciel s'est déchaîné, beaucoup de vent, importantes chutes de grêle.
Des coupures de courant et des milliers de vols annulés. Pire encore, cette descente d'air froid sur une masse d'air plus doux a généré une puissante bombe météo.
Des incendies que rien ne semble pouvoir arrêter.
Les 7 premiers mois de l'année ont été les plus secs jamais observés dans plusieurs régions de France.
Des toitures endommagées, des inondations et des arbres arrachés, un vrai cauchemar.
Ces habitants vivent à présent sous un épais nuage de fumée.
Et dans ce cas, donc, est-ce que la propagation n'a pas du bon ?
Alors c'est exact que ça permet de mettre à l'agenda des questions partagées et qui sont de statut global, par exemple comme le changement climatique. Le problème étant qu'avec la forme de viralité qui est propre à ces réseaux-là, ce sont quelques éléments qui sont extraits et qui ce sont ceux-là qui vont circuler, si vous voulez.
Par exemple,
c'est pas le rapport du GIEC qui circule, je caricature, hein, si vous voulez. Or, le côté systémique de l'affaire, puisque c'est cette pensée systémique qui est propre à l'écologie et qui est effectivement extrêmement importante, qui devrait nous faire comprendre qu'on est à l'intérieur de tout cela, il exige un travail assez considérable. C'est-à-dire qu'il exige précisément du temps de délibération, du fait de connecter des faits entre eux, etc. Et le modèle qui est diffusé, il va mettre en alerte, ça c'est vrai, il va mettre en alerte, mais il va le mettre sous une forme qui peut être très très réduite, et y compris avec des cycles qui sont extrêmement rapides. Parfois, on va changer avec autre chose, et après, tiens, on va avoir Greta Thunberg, et puis après, on va avoir un autre signal. Et ça s'accumule comme cela, et au bout d'un moment, vous avez cette invasion, j'allais dire, de succession de signaux qui ne construisent pas pour autant une prise de conscience plus durable.
Alors bon, prenons un exemple, celui du tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie début février et dont les images ont circulé, des images produites par les Turcs eux-mêmes souvent. Alors Dominique reconnaît la puissance d'identification qu'ont ces images et l'importance de l'empathie et de l'émotion qu'elles provoquent.
Mais le problème, c'est que à partir de là, vous faites quoi ? Tout le monde valorise cette émotion-là, ça fait de la réactivité, et puis après, vous n'avez pas forcément fait avancer le débat public, ou par exemple les débats que les Turcs eux-mêmes conduisent, sur comment en est-on arrivé à avoir des constructions par milliers qui s'effondrent de cette façon-là. C'est cette amplification de l'alerte et de l'empathie et de la réactivité qui étouffe les autres canaux d'information, les autres canaux, surtout les autres, ce que j'appelle les régimes d'attention. Donc c'est là aussi où il y a un équilibre à trouver, et c'est ça qui est un peu paradoxal, parce que de fait, les propagations, du coup, nous mettent en alerte et nous rendent un petit peu plus impuissants quelquefois, parce que du coup, on se dit, alors vous dites, là, le monde va vraiment mal. Ben oui, d'accord, avec ça, vous avez vraiment envie d'agir, non.
Il y a là un paradoxe entre une propagation qui est activée par nos réactions, nos réactions dans les réseaux sociaux, mais qui en même temps nous rend impuissants. C'est donc une réaction sans action. Je vois assez bien ce que veut dire Dominique par là. Mais bon, il y a aussi ce qui ne prend pas. Par exemple, début février, des incendies terribles ont lieu au Chili, ils ravagent le centre du pays, très peu d'images circulent alors même qu'elles sont hyper spectaculaires, comme ici dans une petite ville du nom de Vilcún, où de gigantesques murs de flammes attaquent les maisons les unes après les autres.
grande, on va droit à la casa.
Mais qu'est-ce qu'un exemple comme ça inspire à Dominique ?
De la compétition pour l'attention est typique des problèmes de propagation. C'est-à-dire que vous, quelle que soit la force de votre signal, eh bien, vous vous trouvez avec un esprit du public qui est encombré ou pas. Quand vous avez l'Ukraine, la Turquie à la fois, eh bien, le Chili passe derrière. Parce que précisément, plus vous amplifiez la réactivité à des moments très chauds, très bien documentés et qui circulent beaucoup, eh bien, plus vous avez du mal à refaire remonter d'autres sujets. Cette compétition-là, tous les médias les connaissent. Hein, je veux dire, mais le problème, c'est que la hiérarchie, ce que faisaient les médias, elle était contrôlée et on pouvait la critiquer. Mais maintenant, elle est foisonnante. Il n'y a plus de hiérarchie. C'est-à-dire, c'est de la compétition pour une viralité. Et donc, il y a des sujets et qui, de fait, passent sous les radars parce que, précisément, on n'a pas encore le levier pour les faire remonter.
Si je comprends bien son raisonnement, là où la viralité actuelle pose problème, c'est qu'elle est anarchique. Elle est moins le fait de choix éditoriaux qui sont identifiés depuis longtemps, hein, comme la fameuse loi du mort kilométrique, par exemple, qui veut qu'un décès dans le quartier touche plus que 10 000 morts de l'autre côté de l'océan. Bon. Et ben, à ces vieilles lois se sont substituées celles des plateformes et de la propagation algorithmique, adossées donc à la réactivité. Bon, néanmoins, il ne faut pas être complètement naïf non plus. Hein. Certains essaient de jouer de cette propagation algorithmique. Ils essaient de la provoquer, de l'orienter. Toutes les pratiques consistant à utiliser des bots qui réagissent à la place des humains, et plus généralement d'ailleurs ce qu'on appelle l'astroturfing, ces techniques-là qui visent à mimer dans les réseaux une diffusion spontanée alors qu'elle est organisée. D'ailleurs, parenthèse, j'avoue que je m'étais jamais penché sur l'origine du mot astroturfing. Eh bien, AstroTurf, c'est le nom d'une marque de pelouse synthétique hyper célèbre aux États-Unis. Donc en fait, parler de AstroTurfing, c'est un jeu de mots pour désigner un mouvement qui n'est pas grassroots, donc qui n'est pas spontané. Voilà, bon. Fin de la parenthèse. Ce genre de pratique pose plein de questions, mais notamment une question politique. En fait, il me semble d'ailleurs que toutes les propagations posent une question politique. Et j'aimerais savoir comment Dominique, lui, la formule.
Est-ce qu'on est toujours dans les mêmes modalités de gouvernement ? Les gouvernements, dans les 10 dernières années, ont été amenés à subir des crises, mais ce sont des phénomènes de propagation qui ne sont plus réellement gérables du point de vue d'une planification, d'une vision stratégique, d'une vision en surplomb, qui est toujours l'idéal du gouvernement. Là, ça supposerait d'avoir un gouvernement, ce que j'appelle plutôt un gouvernement tactique, c'est-à-dire qu'il est vraiment en réaction. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit seulement en réaction, parce que sinon, il part à ce moment-là dans tous les sens. Donc l'important, c'est de pouvoir se dire, est-ce qu'on est capable d'accepter de mettre en place une veille constante, ce qui est le cas hein, en épidémiologie. Le critère essentiel, c'est d'avoir ces veilles pour les signaux faibles et d'avoir une détection la plus rapide possible des alertes et à ce moment-là, être en veille en permanence. Et puis de l'autre côté, de faire confiance aussi au collectif. Parce que les signaux qui arrivent, ils sont souvent très locaux, ils sont très partiels. Ce n'est pas une fois que vous avez rassemblé toutes les statistiques de tous les observatoires, de tout ce que vous voulez pour un phénomène quelconque, eh bien à ce moment-là, vous arrivez après la bataille, d'une part, et puis vous avez l'impression de pouvoir tout gouverner, alors qu'en réalité, localement, ça prend des formes très différentes. Donc c'est là où, du point de vue gouvernemental, il y a quelque chose que les propagations peuvent nous apprendre, c'est cette variabilité énorme des phénomènes qu'on ne peut pas réduire à un indicateur ou à une stratégie ou à un modèle de...
Nous sommes en guerre.
Non, le problème, c'est qu'on n'est pas en guerre contre une propagation, où elle est. Elle nous traverse. Nous sommes à l'intérieur de ces propagations. Donc nous sommes tous pris dedans, soit dans le phénomène lui-même, quand c'est un virus ou un mouvement social, etc., soit dans la couche de communication qui se fait autour. Donc, vous ne pouvez pas faire comme si vous vous retrouviez en contrôle. Alors, les gouvernements ont tendance à mettre ça en scène, hein, à mettre en scène ce contrôle. Mais le résultat, c'est que du coup, on traite les gens comme une forme de citoyen de seconde zone, c'est-à-dire peu informé, sujet aux contagions émotionnelles, des paniques, etc. Donc, on les infantilise. Or, si vous voulez traiter ces phénomènes de propagation, il va falloir les mobiliser. Et dans tous les cas, c'est eux, sur le terrain, dans proximité, qui vont faire le travail. Parce que ces phénomènes-là ne tombent pas d'en haut, ils se propagent horizontalement. Et du coup, il faut qu'on mette en place des choses pour renforcer ces communautés.
Encore une fois, c'est très intéressant. On comprend bien que gouverner à l'ère des propagations, quelle qu'elle soit, hein, ça nécessite un changement assez radical de paradigme. Une veille plus locale, moins fondée sur l'accumulation de statistiques, mais sur des signaux faibles, le recours à des communautés capables de détecter ces signaux faibles, la fin de l'infantilisation, etc. Bon, on ne peut pas dire que ce soit un réflexe très courant en France,
nous sommes en guerre,
où la notion de communauté elle-même est très suspecte et où on préfère l'État, l'individu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ailleurs, il en va autrement. Je me souviens que Achille Mbembe, le philosophe camerounais, m'avait raconté ça quand j'avais discuté avec lui au début de l'épidémie de Covid. À l'époque, on était assez étonnés qu'elle ne se répande pas aussi vite qu'attendu en Afrique du Sud. Et il m'avait expliqué, lui qui vit en Afrique du Sud, qu'à l'occasion de la lutte contre le sida, s'étaient développés des collectifs défendant par exemple l'universalisation de l'accès aux soins. Et la société civile en Afrique du Sud s'était organisée. Elle avait mis au point des systèmes de veille et de prise en charge qui étaient devenus très efficaces. Or, m'avait expliqué Achille Mbembe, ce sont ces mêmes systèmes qui ont été réactivés quand a démarré l'épidémie de Covid. Des systèmes de veille et de décision très locaux, très communautaires. Eh bien, on peut observer la même réussite dans les réseaux sociaux. Là où les grandes plateformes échouent, enfin en tout cas elles font pas beaucoup d'efforts, à modérer les contenus, eh ben, des systèmes de modération communautaire se montrent beaucoup plus efficaces. Sur Twitch par exemple, où le fait que les vidéos soient diffusées en direct rend très compliqué la modération algorithmique, eh ben, on observe que des modérations communautaires, par exemple féministes, sont beaucoup plus efficaces. Donc on pourrait, plus globalement, s'appuyer sur les communautés et le local pour repérer les propagations et agir. Voilà ce que ça pourrait être une vraie politique à l'ère de la propagation. Donc au final, on en vient à imaginer des architectures sociales, que ce soit dans la vie physique ou dans les réseaux sociaux, hein, qui soient des antidotes à la propagation. Ou en tout cas, qui laissent la responsabilité de décider ce par quoi on veut être traversé ou pas. Dominique, il articule ça autour de l'idée d'autorégulation, parce que ça, c'est son histoire politique personnelle. Mais ça veut dire une chose importante. Ça veut dire que les choix techniques ne suffisent pas pour lutter contre la propagation.
Il faut des choix techniques. Sur ces domaines-là, il y a forcément des choix de code et de filtres d'administration, d'autorisation, de tout ce qu'on veut. Il y a tout un tas de choix comme ça, mais qui sont immédiatement des choix sociaux. Le numérique, les algorithmes de l'IA y compris, doivent être encastrés dans ces choix sociaux. Donc c'est ça l'intérêt du numérique, c'est qu'il nous oblige à éclaircir tout ça. Un firewall, par exemple, que vous avez dans une organisation, qu'il décide, pourquoi vous filtrez ça, pas autre chose, etc. Eh bien, redonnons du pouvoir au collectif, faisons-en un objet de management, de discussion, de délibération, et puis on va dire, ben voilà, on discute ça, bon, ok, et on est d'accord là-dessus, vous voyez.
Vous voudriez qu'on discute de quel firewall on met dans une Radio France, par exemple ?
Absolument. C'est-à-dire de discuter qu'est-ce qu'on interdit. Par exemple, je me souviens, à une époque, on interdisait Skype dans les universités. Pourquoi, a priori, on l'avait interdit ? Ça se discute. Peut-être qu'il y a de bonnes raisons, je n'en sais rien. Il faut que ce soit le collectif qui, lui-même, soit capable de dire « Non, nous, on filtre ça, oui, pour telle raison, etc. » C'est pas la propagation portes et fenêtres ouvertes, quoi. C'est pas possible. C'est invivable, un monde comme ça. Mais on doit faire en sorte de récupérer du contrôle là-dessus, dans des communautés qui peuvent être une famille, qui peuvent être un réseau d'amis, qui peuvent être des voisins, qui peuvent être tout ce que vous voulez. Pas seulement l'individu tout seul, on lui dit « Oh, bah, t'es responsable, tu te débrouilles à faire ta surveillance. » C'est très difficile de faire ça tout seul.
Encore une fois, hein, c'est l'inverse de ce qu'on fait en ce moment. Où, quand sont permis des choix, eh ben, ils sont hyper individualisés. Typiquement sur les cookies. Comme il s'agit de données personnelles, eh ben, on en appelle à des choix personnels. Bon, je trouve ça important parce qu'on voit à quel point tout ça nécessite des évolutions en profondeur, donc des évolutions très politiques. Bon, nous voilà donc dans une situation où il faut arbitrer entre ce par quoi on se laisse traverser et ce qu'on décide de bloquer. Et tout ça, c'est marrant, ça m'évoque des réflexions contemporaines qui, un peu comme celle de Dominique d'ailleurs, ont été réactivées par la pandémie. Je pense à deux en particulier. D'abord, celle du philosophe Paul Preciado dans son dernier livre « Dysphoria Mundi ». Paul Preciado explique comment le Covid a ravivé le fantasme de l'immunité. Quand elle se dresse contre un virus qui nous fait mal, l'immunité peut se justifier. Mais quand elle devient un modèle social, l'immunité devient prétexte à une défense contre tous les corps étrangers, à commencer par les étrangers eux-mêmes qui sont perçus comme des agents de contamination. Et Preciado a cette phrase très belle, il dit « Chaque société peut se définir par l'épidémie qui la menace et par la façon dont elle s'organise face à elle. » Et le premier exemple qu'il donne, c'est celui de la longue épidémie de syphilis qui dure en gros du 16e au 19e siècle. Hein. Et il montre comment elle a été instrumentalisée par le pouvoir blanc et masculin pour stigmatiser deux populations, qui étaient celles qui étaient censées la transmettre plus que les autres, hein, les femmes prostituées et les étrangers. La leçon donc, ce serait, selon Preciado, méfions-nous de la façon dont nous nous protégeons de la propagation. Le deuxième exemple auquel je pensais, c'est celui de l'anthropologue Charlotte Brive. Dans son livre « Face à l'antibiorésistance, une écologie politique des microbes », c'est le titre, hein, elle invite à penser différemment nos relations aux micro-organismes, les bactéries, les virus, etc. Plutôt que le tout antibiotique, qui finit par conduire à une antibiorésistance aux conséquences qui, d'ailleurs, pourraient se révéler à terme catastrophiques, elle explique qu'on pourrait utiliser certains virus, les phages notamment, pour combattre les bactéries qui nous sont néfastes. Alors les thérapies phagiques, elles existent depuis très longtemps, hein. Elles ont prouvé leur efficacité. Mais le problème, c'est qu'elles sont difficiles à industrialiser, et puis surtout, elles nécessitent d'accepter que nous sommes traversés par les micro-organismes, sans cesse, que nous cohabitons avec eux et que nous pouvons cohabiter avec eux. Ce qui se joue dans ces pensées, hein, celles de Charlotte Brive et de Paul Preciado, c'est un arbitrage entre ce par quoi nous acceptons de nous faire traverser et ce que nous décidons de bloquer. Et donc, je demande à Dominique ce que lui, il en pense dans son propre champ, l'étude du numérique. Est-ce que ce sont aussi des questions qui se posent ?
Là, j'ai mis l'accent sur les propagations. En réalité, mon travail depuis 25 ans, c'est sur rendre le numérique habitable. C'est pour ça que j'ai produit ce concept d'habitel. Et donc, le problème, c'est ça. C'est précisément comment on le rend habitable ? Eh bien, c'est en filtrant aussi, parce qu'un habitat, ça suppose de filtrer. Vous ne vivez pas avec les portes et les fenêtres tout le temps ouvertes, vous voyez.
Mais pas tout le temps fermées non plus.
Pas tout le temps fermées non plus. C'est ça. C'est important. C'est-à-dire, on ne vit pas dans des bunkers. Et si vous vivez trop longtemps dans un bunker, vous êtes sûr de mourir. Donc, parce que ça ne vit que des échanges. Alors là, on est dans des métaphores biologiques qu'on peut utiliser quelquefois abusivement, mais il n'empêche que c'est ça qui est très important. Quand on est dans des réseaux sociaux, on a accepté d'abandonner quasiment tout pouvoir de filtrage. Même si on vous dit que vous pouvez paramétrer, en réalité, vous ne comprenez rien à la façon dont votre fil d'actualité est construit, parce que vous croyez avoir paramétré, puis il y a des choses qui vous arrivent, etc. Ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que ça génère une incertitude, une propagation qui n'est pas de votre fait, et qui, au bout du compte, vous fait sentir envahi par justement des rythmes, des sollicitations et des choses comme cela. Donc là, on doit pouvoir récupérer de la maîtrise là-dessus. Et ça, c'est un élément qui va reconstituer la tension qu'on a entre propagation et habitel, ce que j'appelle habitel.
L'habitel, pour lui, donc, c'est une sorte d'enveloppe qu'on porterait. C'est une enveloppe constituée de nos appartenances numériques et qui viendrait s'additionner à d'autres enveloppes que nous portons déjà, comme l'habit, hein, ou l'habitat. Choisir l'habitel dans lequel on se sent bien, le fabriquer, c'est pour lui tout l'enjeu de notre monde numérique contemporain. Il faudrait apporter à notre habitel autant de soins que celui qu'on prend à choisir ses vêtements ou sa maison. En même temps, en écoutant Dominique, je me demande si il ne noircit pas un peu le tableau. L'autre jour, je discutais avec un copain qui bosse chez TikTok. Et je lui disais qu'en ce moment, je me livrais avec TikTok à une expérience. Tu vois, moi, j'étais en train de lui raconter, tu vois, je m'impose des contraintes, je me donne une heure et... Et là, mon copain m'interrompt en me disant « Et t'essayes de niquer l'algorithme ?» Ah, je dis « Bah comment tu sais ?» Et lui, il fait une tête du genre « Mais tu crois que t'es le seul à faire ça, mon pauvre ?» Alors, mon expérimentation, c'est quoi ? Je me donne une heure pour configurer mon fil TikTok autour d'un thème. Une fois le foot, une fois la guerre en Ukraine, une fois du cul. Je développe des petites stratégies, pas non plus hyper élaborées, hein, mais je veux brouiller des pistes, ça m'amuse. Le but, c'est que l'algo ne me connaisse pas, que à chaque fois, il me redécouvre, qu'il soit un peu perdu. Mais le fait que je ne sois pas le seul à faire ça, comme me l'a révélé avec un peu de mépris mon copain de TikTok, ça m'amène à une réflexion. Peut-être que les gens sont moins passifs qu'on ne le pense avec les plateformes, qu'ils s'amusent avec les algos, qu'ils ont des stratégies de détournement. Et donc je fais part de mon observation à Dominique et il y répond.
Le problème, c'est que vivre dans un monde fait que de propagation et dans lequel les algorithmes nous envoient ce qu'ils veulent, etc., il est invivable. Donc je pense que fondamentalement, du coup, on est capable précisément d'apprendre à tourner les choses, soi-même d'ailleurs à fermer son écran de temps en temps, ça peut se faire aussi. Hein. Et donc ces choses-là, c'est des éléments très importants. Donc le savoir-faire ou la demande, elle existe dans ce domaine-là. Mais quelles sont les offres technologiques ? Effectivement, on doit être capable d'offrir dans l'interface la même qualité de réactivité et de signaux pour le contrôle que l'on a pour la propagation. Donc vous avez un compteur qui vous permet de dire combien j'ai retweeté, combien j'ai liké, etc. Vous êtes pris dans la logique de propagation. Donc si vous voulez vous en sortir, il vous faut d'abord un compteur et puis après mettre des seuils. Au bout de 10, je dis oh, 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 on se calme. Vous auto-régulez. Et si ça devient vraiment pris en compte comme un problème, soit par la plateforme, soit par les États au sens de c'est un problème de santé mentale collective, eh bien à ce moment-là, on dit non, il faut un seuil. Et donc, vous arrêtez les plateformes. On vous oblige à modérer cela, mais pas modérer au sens des contenus, mais au sens du rythme, qui est l'élément clé, parce que c'est là où vous perdez votre pouvoir de décision. Si le rythme est tellement élevé, vous ne pouvez plus rien faire.
C'est assez marrant, cette idée de Dominique. En gros, ce qu'il propose, c'est une mesure de distanciation sociale appliquée au numérique. C'est assez logique, hein. Si on considère qu'il y a des propagations négatives et qu'on est tous plus ou moins contaminants, enfin, en tout cas, qu'on devient nécessairement à partir d'un certain seuil d'interaction, eh ben, des mesures s'imposent. Mais il y a aussi une question qui s'impose. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une propagation numérique qui serait tellement insupportable qu'il faille un confinement numérique ?
Alors moi, ce que je prédis depuis très très longtemps, c'est un Fukushima des réseaux, parce que notre vigilance sur la question de la sécurité était tellement faible que nous avons laissé faire quantité de choses et que de fait, l'accroissement des capacités de calcul et de programmation justement de virus de tout type, mais qui sont aussi pas seulement des virus, qui sont aussi des attaques délibérées, hein, à un moment ou à un autre, ça va finir par s'accumuler. C'est-à-dire qu'on a des exemples, on a bloqué des hôpitaux, on a bloqué un pipeline sur la côte est américaine, etc. Donc je crois moins un blocage lié à des problèmes de contenu qu'à un problème de virus informatique. Et alors celui-là, c'est à peu près certain qu'on va l'avoir à un moment ou à un autre. Et donc si on a une vraie catastrophe qui consiste à dire tous les systèmes par exemple qui pilotent nos centrales nucléaires, systèmes de gestion de l'énergie, clac, qu'on les hack. Alors vous avez une série comme Mr. Robot qui par exemple met ça en scène d'ailleurs de façon assez puissante je trouve.
Merde, c'est pire que ce que je pensais. Ils sont dans le réseau.
D'où vient l'attaque exactement ?
De partout évidemment. États-Unis, Finlande, Thaïlande,
bon,
Kuwait.
Commencer à redémarrer les services et le partage, rediriger le trafic.
Je crois pas que ce soit juste une attaque DDoS. Je crois qu'ils ont un rootkit à l'intérieur des serveurs.
C'est quoi un rootkit ?
C'est un code malveillant qui prend totalement la main sur le système. Ça peut effacer des fichiers système, installer des logiciels, des virus, des vers.
Et comment on peut l'arrêter ?
C'est ça le problème, il est invisible, on peut pas l'arrêter.
Chaque fois qu'on relance un serveur, le virus se duplique pendant le démarrage et parasite leur hôte. En nous défendant, on a fini par propager le virus dans tout leur réseau. Tout ce qu'on peut faire, c'est mettre l'intégralité du système hors ligne, nettoyer les serveurs infectés, puis les redémarrer.
Préviens tout le monde et dis-leur de tout mettre hors ligne.
Eh bien là, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment de la contagion partout dans les réseaux, que tous nos réseaux sont poreux, sont d'une sécurité extrêmement faible, et qu'on doit du coup anticiper le moment où tout cela va s'accumuler. Si vous bloquez l'alimentation électrique, vous bloquez tout un tas de systèmes autrement, et là, terminé. Là, vos réseaux sociaux, ils ne fonctionnent plus non plus.
Et donc là, on pourrait vivre une sorte de confinement informatique qui serait l'inverse exact de ce qu'on a vécu, c'est-à-dire qu'on serait obligé que tout le monde soit en présentiel tout le temps, parce que sinon, on ne pourrait plus communiquer. Ce serait assez beau, comme...
C'est un des éléments de débat sur la façon dont on s'approprie les technologies, c'est-à-dire jusqu'où on peut déléguer aux machines au point de se mettre en position de dépendance totale. Je prends l'exemple du GPS, jusqu'où on doit désapprendre à s'orienter. Être dépossédé à ce point-là, ça pose un problème. Donc là, ces crises comme celle-là mettent ça sur la table, c'est-à-dire jusqu'où on est capable encore de garder une forme de résilience, comme on dit classiquement, mais qui suppose des savoir-faire, qu'on continue à apprendre. Parce que sinon, de fait, on a les mains pieds et moins liés avec ces technologies qui, à un moment ou à un autre, peuvent disparaître.
C'est drôle parce que le grand auteur américain Don DeLillo vient de publier deux nouvelles, traduites en français, et les deux sont très inspirées par la pandémie, je crois même qu'il les a écrites pendant. Or, la première, qui s'intitule « Le silence », elle raconte précisément ça. Elle raconte un « shutdown », l'extinction brutale de toutes nos infrastructures techniques et technologiques. Et d'ailleurs, il y a un passage qui rassemble presque miraculeusement tout ce que vient de raconter Dominique. Le crash d'Internet, les virus informatiques, les virus biologiques, les gens qui sortent de chez eux. Il est clair à présent que les codes de lancement sont en train d'être manipulés à distance par des groupes.
Ou des agences inconnues. Toutes les armes nucléaires dans le monde entier sont devenues inutilisables. On n'envoie plus de missiles par-dessus les océans, on ne lâche plus de bombes depuis des avions supersoniques. Et pourtant, la guerre se déroule et les termes s'accumulent. Cyberattaque, intrusion numérique, agression biologique, anthrax, variole, agents pathogènes, des morts et des infirmes, la famine, la peste et quoi encore ?
L'effondrement du réseau électrique. Nos perceptions individuelles sombrant dans la domination quantique. Le niveau des océans est-il en train de monter à toute allure, l'air de se réchauffer à chaque heure qui passe, chaque minute ? Les gens revivent-ils les souvenirs de conflits antérieurs, de la propagation du terrorisme, Des vidéos tremblées montrant une silhouette qui s'approche d'une ambassade, une ceinture explosive sanglée sur la poitrine. Prier et mourir. Une guerre qu'on voit et qu'on ressent.
Un lambeau de nostalgie s'attache-t-il à ses souvenirs ? Les gens commencent à réapparaître dans les rues avec précaution d'abord, puis avec un sentiment de libération. Les voici qui marchent, regardent, s'interrogent. Des hommes, des femmes, un groupe d'adolescents ici et là, tous s'escortent les uns les autres à travers l'insomnie collective de ce moment inconcevable.
Et n'est-il pas étrange que certains aient apparemment accepté le shutdown, l'extinction ? Est-ce une chose qu'ils attendent depuis toujours, de manière subliminale, subatomique ?
Quelques-uns. Il y en a toujours quelques-uns. Une minuscule proportion des habitants de la planète Terre, troisième planète la plus proche du Soleil, le royaume de l'existence mortelle.
Voilà, étonnant comme une discussion sur la propagation mène à une forme de disparition. Comme s'il y avait un lien entre le trop et le vide. Merci beaucoup à Dominique Boulier. Son livre « Propagation, un nouveau paradigme pour les sciences sociales » est paru chez Armand Collin. À la prise de son, c'était Anne-Laure Cochet. Au mixage, Benjamin Orgeret. Réalisation, Fanny Boyon. C'était Le Code a changé, un podcast qui vous est proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.